7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, une vaste question, qu'est-ce qu'une famille? Bien sûr, on parlera des mamans solo, des couples remariés avec famille recomposée, des couples non mariés avec enfants, des couples homosexuels. Et on s'interrogera sur la filiation aussi au sein de la famille. Est-ce la finalité de la famille? Et chez vous, les voisins, dites-nous comment a évolué la famille? Qu'est-ce qu'une famille pour vous aujourd'hui? On attend bien sûr vos témoignages, surtout ne tardez pas à nous appeler. Au 33 1 84 22 71 71. Vous savez que c'est aussi un numéro WhatsApp pour nous appeler gratuitement. Cette émission est réalisée en partenariat avec le site d'information The Conversation. Bonjour chez Cléa Chakraverty.
Bonjour, bonjour Emmanuel.
Vous êtes journaliste pour le site The Conversation. Peut-être un rappel sur ce qu'est ce site un peu particulier.
Merci. Oui, The Conversation France est donc un site qui met en lumière les travaux de chercheurs pour le grand public. Donc le site est rédigé grâce aux chercheurs qui écrivent leurs propres articles, soutenus et accompagnés par des journalistes.
Et sur des sujets qui nous intéressent tous, comme la famille. Pourquoi vous êtes intéressé au concept de famille aujourd'hui?
Alors, la réflexion est venue autour du débat en France sur les lois bioéthiques, autour de la PMA, de la GPA, des questions de filiation notamment. Et donc nous avons souhaité élargir la question à ce que veut dire faire famille, comprendre ce qu'est une famille, mais aussi ce qu'est une parenté, et les différentes façons d'être une famille à travers le monde qui ne se résument pas forcément à ce qu'on appelle une famille biologique ou une famille monoparentale, mononucléaire.
Voilà. Et on va en parler avec vous, Denis Quinqueton, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été l'un des militants à l'origine du pacte d'union civile. Vous publiez l'incroyable histoire du Pax chez Kéro, le Pax qui fête donc cette année ses 20 ans en France.
Tout à fait.
Et dont le succès ne faiblit pas. Il a été créé à l'origine pour permettre aux personnes de même sexe de s'unir. Et il allait ouvrir la voie au mariage pour tous 14 ans plus tard, mais aujourd'hui il est essentiellement pratiqué par des couples hétérosexuels. On va en discuter avec nous également. Shahrazad Amrani, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes chercheuse à l'Université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne. Vous travaillez sur l'adoption par kafala. C'est une tradition musulmane qui n'est pas très connue, qui est pratiquée surtout au Maroc et en Algérie, mais aussi par des couples binationaux en France, en étant légalement recueillis par un tuteur. L'enfant est recueilli par un tuteur. Il ne s'agit pas d'une adoption au sens juridique, mais c'est aussi une façon de devenir parent. Et ça concerne plusieurs centaines d'enfants par an en France.
Oui, tout à fait.
On en parlera avec vous. On est également en ligne avec le psychologue Benoît Schneider à l'Université de Lorraine. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous et bien sûr, vous interviendrez quand vous le souhaitez. Vous nous appelez les voisins et les voisines. Je vous rappelle notre numéro de téléphone. Que signifie faire famille chez vous? Comment a évolué la famille dans votre pays? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. On est ensemble.
Tout le monde est voisin. 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins sur RFI.
Alors sur la famille, on a eu des commentaires très variés sur nos réseaux sociaux. Un internaute nous écrit « Une famille était plutôt censée être sacrée, un havre de paix, un refuge. Mais avec le temps, nous écrit cet internaute, c'est juste une étiquette. Aujourd'hui, on évite la famille comme un fraudeur fiscal, évite le fisc. » Écoutez, c'est un cri du cœur. Hein. Oui, même son de cloche pour Buffy à Kinshasa. Il nous dit « Une famille, il faut la supporter. » Yarjous est à Brazzaville, au Congo-Brazza. Moi, je n'ai rien de plus fort que ma famille. Pour Saximanto à Bangui, en République centrafricaine, il nous dit la famille, c'est l'arbre généalogique. Donc voilà, lui, il est vraiment dans la filiation, les liens du sang. Junior à Kinshasa nous dit que la famille, c'est un père, une mère, des enfants. Mais c'est aussi l'ensemble des liens entre individus par alliance, par filiation ou fraternité. Donc du coup, c'est très large. On voit bien qu'on commence très, très étroit et puis ça s'élargit très vite. Nadie à Libreville au Gabon, je suis maman solo mais je me sens réellement en famille pendant les vacances lorsque j'ai tous mes neveux, toutes mes nièces avec moi. C'est du boulot, c'est des dépenses, mais j'adore ça. Voilà. Et puis il y a Aïssa à Ouagadougou, Burkina, qui nous dit que les familles sont en train de se résumer. la mère, le père, les enfants, avec parfois aussi les grands-parents paternels. Avant, c'était toute une grande famille avec les oncles, leur famille, plus les grands-parents. Et même, il pouvait y avoir un enfant ou des enfants d'autres membres de la famille. C'est encore quand même souvent comme ça dans la famille africaine. Mais aujourd'hui, nous dit Aïssa, on préfère vivre en famille nucléaire. Ça évite les problèmes. Il faut quand même préciser que c'est aussi les effets de l'urbanisation, hein, Cléa Chakraverty.
Alors justement, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans toutes ces réactions d'internautes. Je pense qu'ils soulignent très bien l'effet protéiforme de la famille, en fait, la pluralité, en tout cas le pluralisme qu'on peut trouver à travers le monde de ce que veut dire faire famille. Vous le soulignez bien, Emmanuel, il y a effectivement l'effet d'urbanisation.
Oui, on a des logements plus petits.
Par exemple, on voit très bien, par exemple, au Japon, où les familles qui étaient traditionnellement peut-être plus vastes autrefois sont aujourd'hui réduites à vivre dans des tout petits espaces. Néanmoins, ce qui est aussi intéressant, c'est l'effet de migration qui a un impact important sur la famille. Je pense notamment à cet article que nous avons aussi publié dans The Conversation par un chercheur qui a travaillé sur le Cap-Vert, Pierre-Joseph Laurent, et qui résume très bien la façon dont être une famille, c'est aussi être une famille à distance. Et finalement, le fait de ne pas être physiquement au même endroit, ça n'empêche pas d'être une famille.
Ouais, parce qu'il y a une énorme communauté capverdienne à l'extérieur des îles du Cap-Vert.
Absolument. Et par exemple, ce qu'il a analysé lui dans sa recherche, c'est que finalement être une famille se définit aussi à cause et par la migration. Le fait de pouvoir transmettre la possibilité de migrer permet de constituer une famille finalement de plus en plus, plus élargie. C'est aussi le cas dans ce qu'a dit une des internautes. Être une famille, c'est aussi une famille avec des personnes qui ne sont pas forcément liées par le sang. Ça peut être aussi des parents sociaux, des parents qui ont une place dans les rituels, qui ont une place non biologique et donc non normative.
Et puis la famille multigénérationnelle aussi, Denis Quinqueton, qui a quand même tendance un peu à s'amenuiser aujourd'hui.
Oui, qui a très nettement tendance à s'amenuiser. Moi, je viens d'une famille dans la Creuse, donc c'était une famille paysanne, et effectivement, au début du siècle, il y avait 3-4 générations dans la même maison, avec les conséquences que ça pouvait avoir hein, sur les rapports de couple. Ça ne devait pas être que simple, mais voilà, il y avait une espèce de solidarité comme ça qui se vivait.
Oui,
et aujourd'hui, elle se vit autrement, parce qu'elle se vit encore, heureusement, mais elle se vit autrement en raison de l'urbanisation, en raison de peut-être en raison aussi de, ça va peut-être surprendre, mais en raison de la sécurité sociale aussi, parce que en mettant en place, alors là je parle juste pour la France, parce que je connais pas la situation des autres pays, mais en mettant en place des systèmes de solidarité universelle, et ben du coup évidemment il y a moins de nécessité d'une solidarité familiale très proche.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Vous avez la parole pour réagir, pour poser des questions aussi à nos invités. Comment a évolué la famille chez vous? Qu'est-ce qu'une famille pour vous? On donne la parole à Donald. Bonjour Donald.
Alors, bonjour Emmanuel.
Donald, oui, soyez le bienvenu Donald. Alors vous avez 29 ans, vous êtes originaire du Bénin, vous êtes basé en France à l'heure actuelle. Et qu'est-ce que ça vous évoque ce concept de famille? Je crois que vous avez une réaction, une question.
Alors Emmanuel, vous savez, depuis la nuit des temps, la composition de la famille, ça repose sur un homme et une femme. Et aujourd'hui, la modernisation, les enjeux socio-économiques, voire même les politiques sont rendues plus difficiles, le sens propre de l'époque. Le sens propre des potences de la famille, et c'est-à-dire les questions complémentaires sociales, la question paiement, etc., vous en savez plus.
Oui.
Et en réalité, ma question est la suivante. Hein. Les formes de famille aujourd'hui, telles qu'elles pensées, ne posent-elles pas un problème pour la société de demain?
Le fait que la famille revête revêt des formes tout à fait éclatées aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut répondre à Donald? Les nouvelles familles, les problèmes de demain. C'est ça, sa question.
Oui. Et ça rejoint la série de messages que vous avez évoqués en ouvrant l'émission. Je crois que d'abord, ce que ça dit, c'est que il n'y a pas un modèle de famille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle dans lequel, auquel on est censé se conformer absolument. Et après, l'autre chose qu'il faut rappeler peut-être, c'est que, puisqu'on parle de famille, on parle d'engagement parental, s'il y a bien un engagement qui n'est pas altéré, qui n'est pas altérable par le temps, c'est bien celui-là. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des enfants pour s'amuser, on ne fait pas des enfants par lubie. C'est un projet, et c'est un projet nécessairement long. C'est-à-dire qu'on en prend un minima pour 20 ans, voire un peu plus.
Shahrazad Amrani, vous avez un point de vue là-dessus?
Oui, alors pour ces nouvelles formes de famille, donc la kafala, elle s'inscrit dans une forme d'adoption, donc c'est quelque chose qui existe depuis pas mal d'années, et elle vient vraiment répondre aux difficultés que peuvent rencontrer aujourd'hui les adoptants, en particulier les adoptants à l'international. Ouais. Donc ce manque, on va dire, bon, même si j'aime pas trop le terme, mais de possibilité d'adopter à l'international. Donc vraiment, au Maroc et en Algérie, ils ont beaucoup plus de facilité à recueillir.
On va revenir sur cette pratique très très singulière d'adoption. Je voudrais laisser la parole à Benoît Schneider, psychologue. Par rapport à tout ce qu'on a entendu, il faut peut-être rappeler, Benoît Schneider, que le concept de famille au sens affectif du terme, avec un lien d'amour entre ses membres, c'est quand même un idéal relativement récent, non ?
Oui, c'est exactement le point sur lequel je voulais intervenir. Je voulais faire un tout petit retour en arrière par rapport à la diversité des interventions du début, qui ont bien marqué la diversité des approches. Je voulais rebondir peut-être sur le premier intervenant qui rebondissait sur un avant havre de paix et un maintenant décomposé. En réalité, tous les sondages montrent, au moins dans les pays occidentaux, que cette famille a une valeur première dans toutes les aspirations. C'est vraiment très très fort. Mais surtout, je crois que quand on parle de famille, on voit bien qu'on pose des questions sur la structure et son évolution. Peut-être que le point d'entrée qui vient d'être abordé, c'est aussi de porter l'accent sur sa fonction, à quoi ça sert. Et autant que la structure, on voit bien que les attentes vis-à-vis de la famille ont beaucoup bougé. On est passé de système de solidarité dans des mondes extrêmement difficiles à une évolution où précisément, pour faire extrêmement court, mais vous venez de le repointer, c'est les attentes interpersonnelles, la façon de se réaliser soi à l'intérieur d'une famille et à travers et avec ses membres, c'est devenu une polarité essentielle. Donc on a une forme d'engagement qui est renouvelée, des attentes affectives, des responsabilités, on a aussi des responsabilités sociales, voire juridiques, parce qu'il y a des engagements de ce point de vue qui sont marqués sur des normes qui s'étendent de plus en plus. Et je crois que vraiment cette question de la fonction de la famille, à quoi ça sert pour les parents, pour la famille élargie, pour les enfants, c'est une question qui répond aussi à la question de l'évolution de sa structure.
Oui, parce que c'est vrai qu'avant, pendant longtemps, ça a été quand même la famille, la filiation, ça servait à transmettre des biens, des terres, à organiser des alliances entre des clans. C'est encore parfois le cas dans certains endroits sur la planète, mais c'est vrai qu'il y a cette attente universelle d'affection, d'amour, de sécurité affective et de solidarité, mais au sens social du terme. Alors justement, vous parliez vous évoquiez votre sujet d'étude, Shahrazad Amrani, la kafala. C'est vrai que le grand public, enfin nous les profanes, ce qu'on connaît de la kafala, c'est un mot qui est d'ailleurs au centre de débats, de polémiques assez importantes, notamment dans le golfe persique, parce que c'est la notion de tuteur, et donc c'est ce qui restreint la liberté des femmes, qui a une femme qui a besoin, par exemple, dans plusieurs pays musulmans, d'avoir l'autorisation de son tuteur pour voyager, pour se marier, etc. Là, ce que vous évoquez, ce que vous étudiez, c'est l'adoption par kafala.
Oui. Alors, juste pour revenir sur ce que vous venez de dire, je pense que la notion qui résume plutôt le tuteur des femmes, c'est plutôt la notion de mahram. C'est ces personnes ces interdits à mariage que peuvent avoir les femmes. Pour ce qui est de la kafala dans les pays du Moyen-Orient, c'est plutôt une forme de mécénat pour l'entreprise. Voilà, enfin, aucune entreprise étrangère ne peut s'installer si il n'y a pas une entreprise locale sur place. Après, donc, pour la kafala sur laquelle je travaille, ça n'a rien à voir. Là, on parle d'un recueil d'un enfant. Donc, moi, je travaille uniquement sur la kafala marocaine. Donc,
Et
ça existe aussi en Algérie.
Oui, ça existe en Algérie. Mais la différence entre les deux, c'est que le Maroc, moi je travaille sur les kafils, donc les recueillants par kafala, les adoptants par kafala français. Les personnes qui donc vont aller au Maroc recueillir un enfant et vont revenir en France pour construire leur famille, voilà. En Algérie, il y a aussi la possibilité de recueillir un enfant de sa famille, donc de sa famille élargie. Au Maroc, ça n'est pas possible. À partir du moment où il y a des liens familiaux qui existent, il n'y a pas de possibilité de visa et donc de départ à l'étranger.
La kafala, elle s'inscrit vraiment dans une tradition musulmane.
Oui,
à la base.
Oui.
Qui ne reconnaît pas l'adoption en tant que telle, c'est-à-dire l'effacement des origines.
Voilà.
C'est ça.
C'est ça. C'est la kafala, elle vient protéger la filiation d'origine. Elle laisse intacte la filiation d'origine, même si celle-ci est parfois fictive, inconnue, puisque la plupart des enfants qui sont recueillis sont des enfants qui ont été sauvagement abandonnés, ouais. On va dire, par leurs parents.
Oui, c'est pour ça aussi que ça a pris de l'ampleur. Mais alors ça se passe souvent par les mères, hein, ça se fait souvent par les mères. Là.
L'abandon.
Oui. Non. La kafala.
Non. Comment ça?
C'est-à-dire que traditionnellement, est-ce que c'était pas les mères qui disaient je vais recueillir tel ou tel enfant? Non, pas spécialement.
Aujourd'hui, non. Dans les profils que j'ai, ce sont alors ça peut être des femmes célibataires, mais c'est aussi des couples qui décident. Mais c'est vraiment le contexte actuel. Ce sont des familles qui ont un long parcours de PMA derrière eux et qui...
Là, vous parlez de familles donc par exemple franco-marocaines en France.
Franco-marocaines. Ou pas, mais des personnes musulmanes, puisque que ce soit le Maroc ou l'Algérie, demandent à ce que les recueillants soient des personnes de confession musulmane.
Oui, parce que c'est une tradition musulmane. Mais alors, quand on recueille, quand on. L'adoption n'est pas tout à fait le bon mot d'ailleurs, hein, pour le droit français, mais quand on.
Mais dans la pratique, c'est une adoption.
Quand on accueille un enfant au sein de son foyer, on va d'ailleurs le ramener en France, il faut savoir que. Quel que soit le territoire, on ne peut pas lui léguer ses biens, c'est ça?
Oui, alors, on ne peut pas, puisque ce n'est pas leur enfant juridiquement, en fait. Ils n'ont qu'une tutelle ou une délégation d'autorité parentale. Mais il y a des dispositions coraniques, on va dire, qui permettent de léguer un tiers des biens à l'enfant recueilli.
Quand un couple franco-marocain, par exemple, ramène du Maroc un bébé accueilli donc par tradition de kafala, ce bébé, qu'est-ce qu'il a comme existence juridique en France ?
Il a une existence, il sera sous l'autorité de ses tuteurs. Dans un premier temps, donc il reste marocain. Donc jusqu'à dans un premier temps, il reste marocain pendant 3 ans. S'il a été recueilli donc par des personnes françaises par déclaration de nationalité, cet enfant peut devenir français.
Même s'il n'est pas adopté au sens juridique.
Alors l'adoption ne peut se faire que si. L'enfant devient français. Donc c'est vraiment le préalable à l'adoption.
D'accord.
Puisque aujourd'hui on a l'article 370-3 du Code civil qui justement interdit l'adoption d'un enfant dont la loi d'origine prohibe l'adoption. Donc c'est en devenant français que cet enfant est adoptable.
Est-ce que tous les pays musulmans interdisent le concept d'adoption ?
Non. On a par exemple la Tunisie qui va proposer la kafala et l'adoption. On a d'autres pays comme l'Indonésie.
Choix, ouais.
L'Indonésie, la Turquie, eux autorisent l'adoption.
Donc comme des pays européens, nord-américains.
Juridiquement, c'est pas une notion très vieille l'adoption en France.
Non.
Pardon. C'est né, je crois, dans le courant du XXe siècle.
Enfin, Oui, tout à fait. Non, on avait avant donc ce qu'on appelle le confiage ou le fosterage.
Oui, ça n'empêche pas que des pratiques aient eu lieu avant, mais l'encadrement juridique, enfin la notion juridique est récente. Oui.
Benoît Schneider, vous souhaitez intervenir sur cette pratique de kafala qui s'avère d'ailleurs bien pratique parce que le nombre d'enfants adoptables à l'échelle de la planète se restreint de plus en plus, c'est de plus en plus difficile d'adopter.
Oui, si je peux intervenir, c'est la notion d'adoption plénière telle qu'elle existe à l'heure actuelle est extrêmement récente. La pratique était plus ancienne. On voit un renversement d'ailleurs de sa tendance, qui était une sous-filiation. À l'origine d'ailleurs, on accueillait des adultes. Et l'adoption d'enfants qui est récente, d'abord dans un système de protection. L'attente d'adultes et la réalisation de soi à travers l'adoption, celle-là est récente. Mais je crois que ce qu'on peut redire aussi par rapport à ces modèles d'adoption, c'est la singularité de l'adoption française dans son modèle d'adoption plénière. En évoquant la kafala, je crois qu'on pourrait rappeler aussi les pratiques de transfert d'enfants. Et l'exemple le plus singulier, c'est peut-être celui de la Polynésie, avec les pratiques de don d'enfants, comme on le trouve dans nombreuses régions, et où effectivement il était de coutume de confier un enfant à des membres de sa famille qui étaient dépourvus d'enfants, qui avaient besoin d'un soutien. Et il a fallu, dans ce contexte législatif français, adapter notre modèle de filiation. Donc ces pratiques d'adoption ont des dispositifs extrêmement divers, et c'est très spécifique à la France que d'avoir un modèle aussi, vous l'avez utilisé l'expression tout à l'heure, d'effacement de la filiation. Ça, c'est un modèle
C'est l'adoption plénière. Hein. Faut bien redire que ça soit bien clair. L'adoption plénière en France, on efface les origines.
Oui, tout à fait, oui.
Alors que dans tous les types là de confiage d'adoption, on n'efface pas les origines dans ce que vous avez cité, si tant est qu'on les connaisse. Parce que pour des enfants qui ont été abandonnés, par exemple, qui ont été déposés dans un orphelinat, de toute façon, il n'y a pas grand chose à.
Ils ont quand même une filiation, mais qui est fictive.
Vous nous appelez les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71. La famille dans tous ses états. Comment a évolué ce concept chez vous? Que signifie faire famille dans votre pays? On attend vos appels juste après. Oh, Alsan, la famille, la famille.
La famille, la famille, la famille. La famille, la famille. La famille, la famille, la famille. La famille. Assis au milieu d'une salle des fêtes qui pue le moisi. Un an après avoir avoué je déteste ces fêtes de famille. Je pensais jamais revenir, c'est comme si j'étais jamais parti. Je crois même que tata réutilise les mêmes verres en plastique. J'ai cru que la famille allait me lyncher. La moitié m'a dit que ça les fait marrer. L'autre agit comme si j'avais rien fait. Combien de fois je les ai défoncés dans mes textes? Pourquoi j'écris la même merde que les comédies françaises que je déteste? C'est quand on risque de perdre les choses qu'on comprend leur valeur. Je suis émotif, j'aurais pas dû attaquer le ponche à 4 heures. C'est fou à quel point je suis soulagé que personne fasse la gueule. Super. Ça me demande de chanter, je crois que je vais le faire tout seul. J'aimerais faire un discours parce que j'ai bu. Levez tous vos verres, j'aimerais dire un truc. Pour les bons et les moments gênants qu'on a vécu. Pour tous ceux qu'on verra jamais plus, j'aimerais rappeler. On aurait pu trouver des excuses. Mais on se retrouve ensemble dans un coin perdu. Quoi qu'on en pense, une chose est sûre. On restera la meilleure famille qu'on ait jamais eue. On va se faire chier si je vous fais des excuses. Souvent je parle de disputes, de fin de repas, j'aimerais parler des débuts. Quand Christian faisait le Père Noël, jusqu'à 10 ans j'y ai cru. Le jour où Nico m'expliquait pourquoi c'est Nike qu'on débule. Bien sûr, personne aime voir son père faire des blagues de cul. Mais bizarrement, c'est le genre de blague grâce auquel je suis connu. Les parties de foot avec les cousins m'ont appris un truc. C'est qu'on a besoin que deux cailloux pour avoir un but. J'y ai pas cru quand Tata m'a offert Megaman. J'avais même pas la Mega Drive, je kiffais rien que de regarder la boîte. Quand vous dansiez la chenille, je rêvais d'être né autre part. Comment j'ai fait pour pas voir que tout le monde s'amusait sauf moi? La fois où tonton allait mal et qu'il a pas fait de blague. J'ai compris que même si elles sont nazes, il vaut mieux qu'il efface. Pour fêter mon permis, il m'a prêté son escorte. Un vrai choc, tellement fier, j'ai décapoté sous la flotte. Bruno a sauvé des hivers avec son caméscope. S'il y avait YouTube, je te jure qu'on aurait percé à l'époque. En fait, j'en rajoute, c'était nul, on aurait fait un flop. Ma mère était affligée, mais elle disait qu'elle trouvait ça top. J'aimerais faire un discours parce que j'ai bu. Levez tous vos verres, j'aimerais dire un truc.
Aurel San, la famille, on est en direct chez 7 milliards de voisins et on la secoue, on l'examine dans tous les sens. Cette famille aujourd'hui, avec, on va dire, protéiforme, hein, on en discute avec vous, Cléa Chakraverty, du site d'information The Conversation. Avec vous aussi, Shahrazad Amrani, chercheuse, vous avez travaillé sur ces processus d'adoption que sont l'adoption par kafala, une tradition musulmane. Denis Quinqueton, vous réinterrogez le Pax qui a conduit au mariage pour tous et qui a 20 ans cette année en France. Vous avez publié l'incroyable histoire du Pax. Et Benoît Schneider, qui est psychologue et qui est en ligne avec nous. On donne la parole à un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Ali est en ligne avec nous de Dakar. Bonjour Ali.
Bonjour Emmanuel.
Je crois que vous souhaitez pointer un oubli de ma part, un oubli tout à fait volontaire. Vous souhaitez évoquer la polygamie. J'ai pas osé l'évoquer d'entrée de jeu parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent s'exprimer sur ce sujet. Et comme la famille prend des formes tellement différentes, mais vous avez raison tout à fait, Ali, de nous rappeler à l'ordre là-dessus.
Oui, merci.
On vous écoute, Ali.
Oui, vous savez, moi, j'ai un papa qui a 3 femmes. Mmh. Et aujourd'hui, cette vie de famille, c'est très compliqué, la polygamie. Il a 11 enfants et la charge familiale est très, très serrée. Mmh. Même si moi, aujourd'hui, j'ai 20 ans et je suis à l'université, pratiquement, la charge qu'il a par rapport à moi, il a beaucoup diminué. Mmh. Et franchement, moi, je ne me sens pas bien avec ça. Puisque quand on est étudiant, si tu es en Afrique, le financement il devient beaucoup plus compliqué. Et quand tu n'as pas quelqu'un qui te prend en charge, c'est compliqué, c'est tout. Souvent, la bourse qui arrive tardivement, c'est autre chose.
Et ces difficultés-là, Ali, pour vous, c'est la polygamie et le nombre d'enfants qui expliquent vos difficultés économiques pour vous, Ali ?
Oui, on peut dire ça.
Non, c'est la question que je vous pose, hein, moi.
Oui, pour répondre à ça, je crois que c'est peut-être ça.
Oui, Ali.
Je peux te dire que c'est ça, parce que j'ai au moins 7 petits frères qui sont souvent au lycée, 2 qui sont au lycée, mmh. Les 2 autres qui sont en primaire. Mmh. Donc là-bas, déjà, c'est une charge très élevée pour régler certaines choses sociales.
Ça veut dire que vous-même, vous devez prendre en charge une partie de vos frères et sœurs ?
Non, moi, actuellement, j'ai pas de boulot. Je suis en train d'étudier à l'université.
Alors, quelle est votre vision de la famille, finalement, aujourd'hui ?
Moi, ma vision que j'ai sur la famille, surtout en Afrique, c'est devenu très compliqué. Parce que, surtout dans notre pays, comme le Sénégal, la polygamie est tellement élevée. Les gens ne calculent pas ce qui les attend, la charge familiale, l'entretien, tout ça.
Vous êtes en souffrance, Ali, hein. Je crois qu'on le comprend dans votre témoignage.
Effectivement.
Merci en tout cas de nous avoir appelés pour témoigner de ce quotidien, pour pointer aussi une réalité, même si ce n'est pas toute la réalité de la polygamie, mais c'est une réalité à prendre en compte. Merci beaucoup de nous avoir appelés, Ali. Nous prenons vos appels 33 1 84 22 71 71. Dans quelques instants, on donne la parole à un autre voisin qui est aussi à Dakar. La famille qui crée de la souffrance, c'est aussi quelque chose qu'il faut entendre.
Alors, je me permets de réagir à cette intervention qui était, je trouvais, assez émouvante. Oui. Effectivement, on se rend bien compte, finalement, qu'on discute de ces questions de parenté ou de famille, qui ont donc, on l'a déjà dit, plusieurs formes, c'est qu'il y a des rapports de pouvoir qui existent, des rapports de pouvoir économiques, mais aussi sociaux. On voit aussi qu'il y a des inadéquations, pardon, de modèles familiaux parfois anciens, qui se sont formés justement pour des raisons parfois politiques, vous l'avez dit tout à l'heure, aussi religieuses dans certains cas, et qui ne sont aujourd'hui plus en corrélation vraiment avec les sociétés dans lesquelles elles évoluent. Ce qui crée forcément des situations de souffrance avec des individus qui ne se retrouvent pas forcément dans ces modèles familiaux, qui les subissent aussi. Je vais prendre juste un exemple. C'est la famille indienne, par exemple, où on a un modèle familial qui est très complexe, où les individus vivent à plusieurs, parfois dans des espaces assez petits. Vous l'avez dit, Denis, tout à l'heure, ça existait aussi en France. En Inde, c'est encore le cas aujourd'hui, malgré le fait que forcément un pouvoir d'achat a pu évoluer, mais dans la plupart des familles, on vit souvent avec la belle famille, avec votre beau-frère ou votre belle-sœur, et selon d'où on se place et d'où on parle, la souffrance peut être extrême, que ce soit de la part des beaux-parents qui imposent des choses à leur belle-fille, soit le contraire également avec des personnes âgées qui sont extrêmement maltraitées. le modèle familial, qui est donc un modèle non nucléaire, est remis en cause en raison de l'individualisation de la société. C'est qu'aujourd'hui, on fait famille de façon différente, on a des aspirations familiales qui sont différentes, et on se rend compte qu'il y a un clash finalement avec les attentes en dehors.
Ouais,
en dehors
du cercle familial. Vous faites bien de souligner qu'effectivement, en fonction de sa place dans la famille, on ne vit pas la famille de la même façon. Ali, au milieu d'une fratrie de 11 enfants, ne vit pas les choses de la même façon que son papa qui a 3 épouses, forcément.
Ouais. Alors, effectivement, déjà, c'est vrai que ce témoignage était assez prenant. Enfin, voilà. Donc, grand merci à lui d'avoir appelé. Ce que je voulais rappeler suite à ce que vous disiez, c'est que, par exemple, le Pax, il est né d'une nécessité de s'affirmer par rapport à une famille. Ce que je veux dire, c'est que ça a été conçu au pire moment de l'épidémie de sida, à un moment où les gens mouraient jeunes, où les familles d'origine, si j'ose dire, reprenaient le pouvoir sur le défunt, niaient son histoire, niaient ses relations affectives, souvent reprenaient les biens s'il y en avait. Cette nécessité d'organiser le couple homosexuel est née de là, c'est-à-dire de pouvoir se poser comme une autre entité face à une famille qui, à l'époque, était hostile. C'est moins le cas maintenant, donc on sent moins cette urgence. Mais à l'époque, c'était vraiment ça, le cœur de l'urgence. C'était s'affirmer dans un modèle familial qui était écrasant et qui faisait souffrir.
Avec des règles assez concrètes.
Avec des règles assez concrètes, mais il fallait qu'il y ait un petit élément symbolique pour que les personnes qui étaient en couple de même sexe puissent dire aux belles familles, assez mal nommées en l'espèce, nous sommes aussi une entité, nous ne sommes plus un élément de cette famille d'origine, nous sommes une entité d'adultes.
Deux personnes qui s'unissent avec le Pax, ça permet quoi concrètement?
Alors après, deux personnes qui s'unissent avec le Pax, ça permet concrètement d'organiser la solidarité au sein du couple, c'est-à-dire que s'il arrive, c'est une loi pour les mauvais moments de la famille, c'est une loi pour les mauvais moments de la vie, mais ça permet en cas de décès donc de prévoir le transfert de bail, ça permet si on fait un testament de transmettre des biens, ça permet de se rapprocher de son conjoint si on est dans la fonction publique, enfin voilà, ça permet tout un tas de petites choses. Avant la CMU, ça permettait aussi d'être ayant droit au titre de la sécurité sociale en France, c'était un élément important aussi.
Les discussions il y a 20 ans pour l'adoption du Pax, c'était aussi houleux que n'a été le débat autour du mariage pour tous.
C'était
Elisabeth Guigou qui était ministre de la justice.
C'était assez bizarre parce que c'était beaucoup plus houleux et vulgaire, surtout. Moi, c'est ce qui m'a frappé en me replongeant là-dedans. Parce que j'avais oublié, en fait, cette grossièreté, cette vulgarité des députés opposés au Pax. Comme si tout d'un coup, on se mettait à parler de famille et un peu de sexualité. Donc, du coup, on avait l'impression qu'on leur racontait une histoire de fesses. Quoi. Et puis, ils se mettaient sur ce plan-là. C'était moins tendu dans la société parce que Christine Boutin a échoué. Elle a fait qu'une petite manifestation de 100 000 personnes, un peu moins même. Il n'y avait pas cette pression de la rue qu'il y avait au moment du mariage pour tous. Mais par contre, l'argumentaire était exactement le même.
Elisabeth Guigou, ministre de la Justice socialiste, rappelle à l'époque que le Pax peut être contracté aussi par deux amis ou deux collègues qui cohabitent. Il fallait quand même rassurer aussi.
Oui, il fallait rassurer.
Même si, bon.
Moi, je pense que c'était... Enfin, moi, je ne l'aurais pas dit à sa place, mais bon, bref, et le Conseil constitutionnel a d'ailleurs mis bon ordre à tout ça en disant que le Pax, ça concerne le couple. Point. Mais en effet, il fallait un peu édulcorer pour éviter quelques...
Alors, c'est en tout cas, clairement, ça a été quand même ce qui a ouvert la voie pour le mariage pour tous 14 ans plus tard, 1999-2013. On va en reparler, on vous donne la parole, bien sûr, aussi sur la famille et le couple homosexuel. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Godson nous appelle de Dakar. Bonjour, Godson.
Bonjour, bonjour.
Soyez le bienvenu, Godson. Vous avez 32 ans, vous êtes béninois. Pour vous, la famille, vous avez dit au Standard, il faut faire bouger la notion de famille.
Franchement, pour moi, la famille a une notion très particulière. Ça dépend de la conception de chacun. Mais pour moi, la famille se résume à mon copain et moi.
Vous, voilà. Vous et votre ami, ça veut dire que clairement vous vous affichez comme un couple homosexuel à Dakar ?
Bien sûr. Nous sommes un couple homosexuel et j'assume mon orientation sexuelle. Et il est vrai que parfois dans plusieurs pays africains, l'homosexualité n'est pas vue comme une bonne chose. Mais quand même, il faut donner l'opportunité à chacun de savoir choisir ses goûts et ses relations.
C'est le cas du Sénégal, hein, rappelons-le, qui criminalise les actes qualifiés de contre-nature avec un individu de son sexe. Hein, c'est dans le code pénal. Vous vous êtes installé néanmoins à Dakar parce que c'était moins difficile qu'au Bénin, Godson ?
Oui, bien sûr. Nous sommes installés ici à Dakar. Parce qu'au Bénin, bien qu'il n'y ait pas encore une loi qui sanctionne l'homosexualité, d'abord la communauté locale vous voit comme un diable, comme quelqu'un qui est possédé par un esprit, ben, du coup nous ne sommes pas bien acceptés dans la société. Donc il faut chercher un cadre, un espace, un périmètre où vous êtes libre de vivre, même si parfois à Dakar, nous sommes parfois obligés de vivre discrètement, mais quand même, c'est mieux qu'au Bénin.
Et votre couple, ce que vous formez avec votre copain, comme vous le disiez, c'est-à-dire cette histoire sentimentale, c'est une nouvelle famille, c'était une notion de refuge par rapport à votre famille d'origine qui vous rejette ou pas dans vos choix, Godson ?
C'est bien évidemment cela, vous savez. Lorsque parfois vous voulez vous sortir de la masse et exprimer quelque chose de nouveau, vous êtes mal vu par la société, vous êtes mal vu par votre famille, on vous rejette, on vous traite de n'importe comment. Et du coup, dans cette solitude, il faut chercher un cadre donc, pour exprimer, afficher son identité. Donc c'est quand même comme un refuge.
Merci beaucoup Godson de nous avoir appelé pour nous parler de ça. Le couple homosexuel, refuge, rempart par rapport à la famille d'origine. Merci, très bonne journée à vous Godson. Benoît Schneider, psychologue, comment vous réagissez par rapport à ce témoignage ?
Bien, peut-être d'abord pour saluer le courage des personnes qui s'engagent à la fois pour leur dimension personnelle, mais aussi du même coup qui font des choix qui deviennent publics et qui sont souvent difficiles à vivre dans des conditions sociales et culturelles qui rendent les choses très compliquées. Il faut vraiment beaucoup de courage et c'est tout à fait important. Mais peut-être pour rebondir de ce point de vue-là sur le propos de M. Quinton tout à l'heure, je crois que vous avez remarqué à propos du PACS, effectivement, ce qui était souligné en termes de mesures de protection et d'avancement concret dans la vie quotidienne qui était majeur. Mais l'autre aspect, je crois, qui soulignait en même temps, c'était la dimension symbolique de la reconnaissance. Celle-là, elle était tout aussi importante. Alors, est-ce que sur ces étapes, il y a eu des moments de crise plus ou moins marqués ? Alors, je dirais, à chaque étape, c'est crise, indépendamment des contextes politiques. Mais je pense quand même qu'il faut rappeler le changement anthropologique qu'on a traversé en une vingtaine d'années ou une trentaine d'années qui est majeur. Et je crois que si la question du pacte poser la question du couple, ça n'a pas été plus simple dans l'étape d'après parce que à partir du moment où il y a adoption, chacun savait très bien qu'à la fois qu'on prend une dimension, une décision d'une date précise, mais qu'elle anticipe du devenir. On savait très bien derrière que la question au-delà du mariage, c'est la question de l'adoption qu'allait se poser et la question des enfants. Et celle-là devient particulièrement aiguë. Et on voit bien même dans l'étape suivante, à partir du moment où on a dit adoption, le législateur a juré ses grands dieux que la question de la GPA ne se poserait pas. Mais c'était bien évident qu'elle allait se poser derrière.
La gestation pour autrui.
Donc, la gestation pour autrui. Donc à chaque fois, on voit bien à la fois des décisions du moment qui semblent ponctuelles et acceptables à un moment donné, mais qu'elles suscitent en même temps une crise parce qu'il faut des changements importants et qu'on sait très bien que l'étape derrière arrive et qu'elle va poser de nouvelles questions éthiques assez fondamentales. Voilà, mais on a été vraiment dans des bouleversements tout à fait importants et je voudrais les souligner.
Sachant que les bouleversements, ce n'est pas le politique qui crée les bouleversements. Hein. C'est d'abord les êtres humains dans leur façon de se comporter, d'aimer, de chercher à se protéger les uns les autres, etc. Hein. Avant le législateur, on est bien d'accord.
Tout à fait. Dans les dynamiques, c'est parfois il peut aider aussi. On se souvient aussi de Simone Veil. Le politique peut parfois être en progrès sous certains aspects.
Revenons au PACS quand même. Revenons au PACS avec vous, Denis Quinqueton, si vous voulez bien. Parce que le PACS, à l'origine, vous l'avez dit, c'était une façon de s'affirmer, de créer aussi une protection pour les couples homosexuels dans un contexte bien particulier. Néanmoins, 20 ans après, le PACS, il profite en fait à tout le monde et essentiellement à des couples hétérosexuels.
Oui, alors,
est-ce qu'on avait prévu ça ?
Alors, ce qu'on avait prévu, en tout cas, enfin, le PACS, c'est deux choses. C'est, ça répond à une nécessité, qui était une urgence à l'époque, hein, pour les couples de personnes de même sexe. Et c'est aussi une réaffirmation, puisque dès le début, ça a été conçu comme un statut ouvert à tous les couples. Ce qui, à l'époque, d'ailleurs, faisait son originalité, puisque le mariage, lui, n'était pas ouvert à tous les couples. Après, donc, on est à la fois... On est plus étonné par l'ampleur du résultat que par sa nature. C'est-à-dire qu'on est plus étonné par le chiffre, quoi. C'est-à-dire qu'on est presque 200 000 PACS par an, il y a 230 000 mariages. Bon, effectivement, ça, moi, vous m'auriez demandé il y a 15 ans, je l'aurais pas dit.
Le mariage s'est effondré en France, c'est un des pays où on se marie le moins.
Oui. Mais alors ça, c'est une tendance longue aussi. Enfin, je veux dire, le PACS, ça a été une étape dans cet effondrement, mais il avait commencé bien avant. Moi, je suis entouré de gens. Enfin, j'ai grandi entouré de gens qui ne voulaient pas se marier, qui le pouvaient, hein, mais qui ne voulaient pas se marier, qui voilà. Bon, c'est un fait.
Aujourd'hui, on a clairement chez les jeunes
la seule question
qui vivent en union libre, hein, des hommes, des femmes, des couples hétérosexuels qui ont des enfants, qui font famille, hein, comme vous le disiez, Cléa Chakraverty.
Surtout qu'en plus,
la
jurisprudence... Parce que ce qui est compliqué quand on est en union libre, c'est quand on se sépare. C'est pas la vie au quotidien. Ça peut parfois être un peu plus compliqué, mais bon. Et aujourd'hui, même la jurisprudence a progressé. C'est-à-dire que de toute façon, par exemple, quand il y a enfant, si un couple se sépare, même s'il est en union libre, il peut y avoir, s'il y a besoin, une intervention du juge aux affaires familiales pour préserver la situation de l'enfant et organiser un tout petit peu les choses une fois que le couple est séparé. Mais oui, si vous voulez, ces évolutions-là, et vous le disiez tout à l'heure, elles viennent d'abord de la société. C'est ça qui est frappant. C'est-à-dire que le PACS, très clairement, puisque lui, il est né de citoyens qui se sont mis autour d'une table pour écrire une loi parce qu'ils n'en pouvaient plus de voir des injustices trop criantes. On parlait de Simone Veil tout à l'heure, et pareil, je veux dire, c'est une revendication qui est née d'abord dans la société. C'est vrai que le politique est rarement en avance sur ces questions-là.
Benoît Scheider, la PMA, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes en France a été votée à une très large majorité par l'Assemblée nationale en septembre dernier. Néanmoins, vous le disiez, de toute façon, les débats suivants se profilent et ceux qui ont précédé le vote sont loin d'être entérinés, sont loin d'être clos. Finalement, aujourd'hui, se pose encore la question de savoir comment grandissent des enfants qui sont élevés avec deux parents de même sexe. Vous avez effectué une étude, vous avez compilé les études sur ce sujet, Benoît Schneider.
Oui, avec mes collègues, on les examine depuis 30 ou 40 ans, enfin les études qui sont en place, qui effectivement existent depuis une quarantaine d'années. On a maintenant un corpus tout à fait important. Et si pour aller très vite, en quelques secondes, là, par rapport au temps imparti, c'est montrer le caractère extraordinairement récurrent des résultats de ces études qui ont changé dans leurs objectifs, dans leur méthodologie, dans leur pratique, et de façon constante, avec les outils qu'on utilise, on ne peut pas montrer qu'il y a un risque particulier ou spécifique chez les enfants qui sont placés et qui sont accueillis dans le cadre de couples homoparentaux. Alors c'est récemment vrai parce que les données sont plus récentes du fait des dispositifs scientifiques qui existent et puis des pratiques légales, mais c'est à nouveau confirmé avec ces enfants issus de la PMA. Hein, c'est vraiment une grande constante. Il ne s'agit pas de dénier la particularité de ces familles ni d'ignorer certaines difficultés qu'elles peuvent rencontrer, mais en aucune façon, contrairement à toutes nos doctrines psychologiques et longtemps normatives qui ont été extrêmement fortes, on ne peut pas montrer qu'il y ait des difficultés particulières. Ces familles fonctionnent comme des familles où chacun peut se réaliser, trouver des aspirations, voire parfois même trouver dans certaines études des bénéfices, je dirais entre guillemets, mais des aspects, au moins des aspects d'enrichissement tout à fait particuliers, héritiers des modes de relation et de construction qui ont été, qui ont présidé à la mise en place de ces familles.
La famille dans tous ses états. Je voudrais vous lire aussi le message de Safiatou, 26 ans, qui est 13e d'une famille de 15 enfants. Elle nous dit « Pour moi, la famille n'est plus une question de lien de sang. Je n'ai aucune affinité avec mes frères et sœurs. Ma famille, ce sont mes amis, mes oncles et tantes maternelles. » Cléa Chakraverty, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui s'interrogent sur ces liens du sang, ces liens choisis.
Alors justement, je trouve que l'intervention de cette personne est intéressante et pour rebondir aussi à ce qui a été dit précédemment, ça peut paraître parfois incongru, effectivement, de penser que la famille n'est pas forcément basée sur un projet biologique, mais les évolutions sociétales récentes montrent bien qu'effectivement, on est passé finalement d'un système très collectif, en tout cas dans de nombreuses communautés, pas seulement occidentales, à des modèles de plus en plus individualisés. Et aujourd'hui, on revient quelque part, en tout cas c'est le sentiment que j'en ai en lisant différentes études sur le sujet, sur un projet collectif choisi, avec une demande de plusieurs individus, couples, familles, de prendre en considération un projet parental. Et là, je vais citer Elsa Supio, chercheuse à Paris 1, qui a écrit sur le sujet, qui a posé la question, est-ce que le projet parental ne pourrait pas être élargi à plus de deux personnes et non fondé sur un ancrage biologique? Et c'est une des questions qui se pose, je pense, en tout cas parmi les personnes qui se sentent concernées.
On va revenir aux sociétés traditionnelles, hein, finalement, où c'était à l'origine beaucoup plus ouvert. Je ne sais pas, Shahrazad Amrani, aujourd'hui, l'adoption par kafala, est-ce que ça répond à finalement un questionnement très contemporain, le droit à l'enfant, puisque je ne peux pas adopter sur le plan international, j'utilise cette pratique, cette tradition musulmane, où ça répond aussi à une envie de se montrer solidaire dans une société qui en manque.
Alors, ça répond à plusieurs choses, mais c'est aussi une opportunité pour les personnes qui veulent adopter. La kafala, c'est une procédure qui est gratuite, donc déjà par rapport à ce que peut coûter une adoption internationale. En recueillant donc au Maroc ou en Algérie, on a accès à des enfants qui sont en très très bas âge. Et quand on regarde les chiffres de l'adoption internationale, ce sont plutôt des enfants qui sont un petit peu plus âgés avec ce qu'on appelle des particularités, ce qui n'est pas le cas dans les pays du Maghreb. Donc effectivement, donc ça répond à ce besoin d'être parent. Les kafils que je rencontre, donc ces adoptants par kafala, disent souvent c'est pas nous qui avons sauvé l'enfant, mais c'est lui qui nous a sauvés. Donc je trouve que ça résume exactement.
Exactement, ça sera une belle conclusion. On n'a pas encore parlé du rôle des différentes générations au sens de la place des grands-parents. Et c'est vrai qu'on fait régulièrement des émissions sur les grands-parents. Aujourd'hui, avec les difficultés économiques, on a l'impression qu'il y a une nouvelle place attribuée aux grands-parents. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot très rapidement, Cléa Chakraverty, sur la place des grands-parents qui, tout en étant extérieurs à ce qu'on appellerait aujourd'hui la famille nucléaire, les parents avec leurs enfants, hein, qui est là le modèle le plus classique, on a besoin d'eux plus que jamais?
Alors absolument, je suis pas spécialiste sur le sujet des grands-parents, mais en tout cas c'est sûr que la forme de grand-parentalité est quelque chose qui est à prendre en compte, notamment dans des sociétés de plus en plus vieillissantes, voir dans quelle mesure ces grands-parents peuvent assurer une certaine protection à la famille, et la protection doit aussi être évidemment réciproque. Encore une fois, on revient sur cette idée de famille comme aussi socle protectif.
Merci à vous tous, Cléa Chakraverty. Plusieurs articles à retrouver sur le site d'information The Conversation, notamment votre article sur la kafala, Shahrazad Amrani. Denis Quinqueton, l'incroyable histoire du Pax est publié chez Kero. Merci à vous, Benoît Schneider aussi de l'Université de Lorraine. Demain, 7 milliards de voisins, c'est le rendez-vous des tchatcheuses, des femmes journalistes de plusieurs continents commentent l'actualité. À demain. RFI.